Chapitre 2. Le lendemain, sur la route qui conduisait aux petites sœurs des pauvres, à Jeanne Jugan, comme on disait dans le faubourg, l'âne traînait le plus singulier chargement qui eût jamais pesé sur son bas de misère. C'était d'abord, sur le siège de la charrette basse, le boloche, en redingote marron, coiffé de sa chéchia de zouave, et sa femme, dans sa meilleure robe de futaine à carreaux, les yeux mouillés derrière ses lunettes de corne. Puis, juste sur la ligne des essieux, une pyramide composée d'un coffre où se trouvaient les vêtements moins habillés du ménage, qu'habitait une famille de lapins habitués aux jours crépusculaires et, en couronnement, une bourriche d'où sortaient, en houppes blanches et noires, les plumes d'un couple de poules de Barbarie maintenues par des baguettes. Enfin, trois pots de basilic, un gros flanqué de deux petits, luxuriants, arrondis, superbes, amarré par une corde sur le plancher du véhicule, terminait le chargement en poupe. Il y avait encore, entre les bonnes gens, à la naissance des brancards, une petite chatte maigre et grise, compagne du rempailleur, et qui, de temps à autre, le long de la jambe de son maître, frottait sa tête de vipère. Tout cela s'en allait, cahotant, les gens, les bêtes, les meubles, vers la demeure où tant d'épaves semblables les avaient précédés. Pour arriver, il fallait trois quarts d'heure à pied et une grande heure au train de l'âne. Mais qu'importait à le boloche, il n'avait pas de hâte d'achever ce voyage-là. Il ne criait pas, comme autrefois, par les rues « Pailleur, pailleur de chaises !» Il n'était plus rien dans le monde, pas même tresseur de joncs, et il le sentait cruellement. Quand il levait les yeux, d'un côté ou de l'autre, vers les maisons de ses anciennes pratiques, son sourire navré répondait aux étonnements que provoquait son équipage. Les petits garçons riaient, pieds nus sur les seuils, les grandes filles paraissaient aux fenêtres, et, d'un mouvement d'épaule, tenant encore à brasser les paillasses qu'elles remuaient, se penchaient pour voir, à la volée, ce qui se passait en bas. Ce déménagement leur paraissait drôle. Ils ne se doutaient pas du chagrin de ces deux voyageurs. Encore la femme, plus douce de nature, se résignait-elle un peu. Mais l'homme avait une douleur violente. Il s'y mêlait chez lui beaucoup d'orgueil blessé. L'idée de s'enfermer, lui qui avait commandé une section sous l'autorité d'une femme, d'une religieuse surtout, l'irritait au plus haut point. Il en voulait par avance à celle qui allait le recueillir. Et, à mesure qu'il s'avançait vers le terme de son voyage, son visage devenait plus rude, ses sourcils se fronçaient. Il avait son grand air des jours de revue. Le boloche entendait en imposer dès l'abord. On ne le prendrait pas pour un fainéant à bout de ressources, las de rouler et mendiant un asile, non, sûrement, ni pour un homme sans caractère qu'on peut commander comme un enfant. La première nonne qui l'apercevrait ne s'y tromperait pas. Enfin, la route monta. Un moulin blanc se dressa vers la droite et le moulin touchait l'hospice. Avec une bande de prés qui les séparait, ils occupaient tout le sommet de la colline. Les voyageurs s'arrêtèrent un peu. En face, au bout du chemin, deux corps de bâtiment très élevés s'avançaient à angle ouvert, masquant le reste de la maison, qui ne montrait ainsi que ses deux bras tendus. Un mur d'enceinte tournait autour et descendait la pente de l'autre côté. Des cimes d'arbres aux feuilles nouvelles le dépassaient çà et là. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Le boloche poussa l'âne jusqu'au pied d'un perron et attendit. C'est là comme dans une ruche. On n'est jamais longtemps sans voir une abeille sortir. Une cornette parut et dessous une sœur toute petite, toute jeune et toute brune. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Celle qui commande ici, » répondit sévèrement le boloche. « Est-ce pour lui vendre quelque chose? La bonne mère est très occupée, voyez-vous, et si c'était pour cela... »« Est-ce que j'ai l'air d'un marchand ambulant ?» répondit le boloche. « Vous n'y êtes pas du tout, mademoiselle !» Il insista sur le mot, sachant fort bien qu'il s'émancipait d'une tradition respectueuse. « J'ai à lui parler, une affaire à lui proposer, et même une bonne affaire. » La sœur jeta un coup d'œil sur les voyageurs, le coffre, les trois pots de basilic. « Je comprends, dit-elle, mon petit bonhomme, je vais la chercher. » et elle se détourna si prestement qu'il ne put savoir si elle avait disparu derrière le pilier de droite ou celui de gauche. « Petit bonhomme » grommela-t-il, « en voilà une péronnelle pour m'appeler petit bonhomme !» Il se laissa glisser le long du marchepied et se tint debout, les rênes de corde passées autour du bras, la chéchia impertinente posée en arrière, un peu de côté. Une ombre courut sur le vitrage cintré du cloître et une autre sœur parut au seuil de la porte, de taille moyenne celle-là, mais si frêle qu'elle paraissait petite. Ses mains, qu'elle avait jointes sur sa robe noire, étaient blanches et transparentes. Il eût été difficile de dire son âge. Tous les traits de son visage très fin s'étaient encore amenuisés par la fatigue et l'effort dévorant d'une âme ardente. On n'y voyait cependant pas une ride. Elle avait dans le regard quelque chose d'enfantin et en même temps le sourire compatissant de celles qui ont vécu. Sa coiffe cachait la couleur de ses cheveux. C'était la bonne mère, une grande dame, qui gouvernait 200 pauvres et 60 religieuses d'un signe de ses doigts de nacre. Elle considéra un instant l'équipage arrêté devant elle. Le coin de sa bouche mince se souleva involontairement par une surprise de sa nature qui était vive et enjouée dans le monde. Mais tout de suite, la volonté réprima ce mouvement désordonné. Et elle dit, de sa voix qui n'avait ni timbre ni chant, mais très douce pourtant, « Vous venez pour entrer chez nous ?» Le boloche, un peu déconcerté, répondit, « Oui, madame, si vous avez de la place. » « Nous vous en ferons une, mon ami, et nous vous servirons de notre mieux. D'ailleurs, je ne vous demande pas la charité, j'apporte mon ménage. Et jusqu'à votre chat. Tout cela est à vous, reprit-il en désignant d'un geste large l'âne, la voiture et le chargement. Je n'y mets que deux conditions. Lesquelles ? Tout à l'heure, une de vos inférieures. Vous voulez dire une de nos sœurs ? « Oui, je suis un ancien soldat, voyez-vous. Pour moi, tout ce qui n'est pas un supérieur est un inférieur. Eh bien, votre sœur m'a appelé petit bonhomme, je n'aime pas cela. »« Il faudra nous pardonner si nous recommençons, » dit la sœur, sur le visage de laquelle le même sourire léger reparut. « C'est un peu l'usage chez nous. » »« Et puis, je voudrais savoir si on a la liberté de son opinion ici. Je préfère vous le dire tout de suite, je ne crois pas à grand-chose, moi. » Je ne suis pas dévot, je ne fais pas de momerie. Et si on n'a pas la liberté de son opinion, je me remmène. » Le boloche disait cela de son plus grand air. Il s'aperçut avec étonnement que la sœur souriait pour tout de bon, d'un sourire si épanoui, si profond, si jeune, qu'il en perdit contenance. « Dame, fit-il, puisque c'est mon opinion. » « Ne craignez rien, répondit-elle, nous avons plusieurs petits bonshommes qui pensent comme vous. » Puis elle descendit le perron et vint donner la main pour l'aider à sortir de la voiture à la mère Le Boloche, tout effarée des audaces de son mari. Celui-ci avait déjà commencé à dételer l'âne. « Conduisez-le à l'écurie, dit la sœur. Là-bas, oui, c'est cela. Tournez à gauche. Devant vous, maintenant. » Autour de Le Boloche s'étendaient de nombreux bâtiments de service, porcherie, écurie, poulailler, étable, et sur la pente de la colline, du côté opposé à celui de l'entrée, un vaste champ de seigle avec des cordons de pommiers nains. Dans les allées se promenait une population lente, voûtée, cassée, trébuchante, de vieillards. Il y avait autant de béquilles que de jambes saines. Le vent maussade qui, là-haut, chassait des nuées fumeuses, aurait pu, sans se gêner, coucher à terre ces pauvres ruines humaines. En les regardant, le boloche s'attendrit sur son propre sort. Il détela l'âne, l'attacha devant une crèche et le combla de foin. « Toi, au moins, dit-il, tu ne souffriras pas. » Ensuite, il se mit à décharger la voiture et, commençant par la bourriche, il enleva les baguettes qui retenaient captifs le coq et la poule. À peine sorti, le coq battit des ailes et chanta. La poule se frotta le bec aux touffes d'herbe de la cour et picora sans le moindre trouble. Le vieux Le Boloche, qui avait en ce moment la comparaison triste, leva les épaules. « Les bêtes, murmura-t-il, ça ne s'aperçoit de rien. Ici, là-bas, tout leur est égal. » et du revers de sa manche il essuya une larme que personne, heureusement, n'avait vue couler.